qui lui a jamais suffi, qui est comme une espèce d'expérience artificielle pour nous faire comprendre autre chose. On voit bien que non seulement les fonctions sociales sont des fonctions d'extériorité, mais que toute forme est une forme d'extériorité. Pourquoi ? Parce qu'une forme, c'est une condition. La forme du visible, c'est la condition des visibilités. La forme du langage, c'est la condition des énoncés. Or, le conditionné est avec la condition dans un tel rapport que le conditionné n'existe que comme dispersé sous la condition, pas dans. Je vais introduire une intériorité. La condition pose le conditionné comme dispersé, disséminé. Et peut-être que c'est la seule manière alors de comprendre. Je reviens à ces histoires de Roussel, aux deux côtés. L'ouverture des choses qui va susciter des énoncés, l'ouverture des phrases qui va susciter des visibilités. Ces captures mutuelles, à première vue, on devait se dire, si vous m'avez suivi, mais ce coup de force est purement verbal. Parce que comment les captures mutuelles sont-elles possibles si les deux formes sont absolument étrangères l'une à l'autre? C'est très joli de dire il y a capture mutuelle, mais comment est-ce possible si la forme du visible est la forme de l'énonçable? Comment peut-il y avoir capture mutuelle puisque les formes ne peuvent pas se mélanger? C'est exactement ça le problème. Hein? Comment qu'il peut y avoir capture mutuelle si les formes ne peuvent pas se mélanger? Écoutez la réponse possible. Il n'est pas question que les formes se mélangent. Mais chacune des deux formes présente une condition et un conditionné. Étant dit que la condition ne contient pas le conditionné. Le conditionné est dispersé sous la condition. En d'autres termes, c'est entre le conditionné et la condition d'une forme, que peut se glisser quelque chose de l'autre forme. Peut-être, en même temps que je dis ça, on se dit c'est insuffisant. C'est peut-être une voie, c'est peut-être une petite voie vers la solution que nous cherchons. Petite voix, que les deux formes soient des formes d'extériorité, à ce moment-là, c'est dans l'extériorité du lien condition-conditionné que l'autre peut se glisser. Ouais, c'est à moitié convaincant. À moitié convaincant, Bon, c'est pas grave, faut chercher ailleurs. Juste on retient de Roussel quoi? C'est que il a quand même beaucoup avancé. Il nous a permis beaucoup d'avancer dans l'idée qu'il y avait des captures mutuelles, même si on ne sait pas encore bien comment en rendre compte. Il y a des captures mutuelles. C'est-à-dire, vous ne dégagez pas des énoncés sans susciter du visible, vous ne dégagez pas des visibilités sans faire proliférer des énoncés. Les deux formes sont absolument hétérogène, mais elles sont en présupposition réciproque, il y a capture mutuelle. Bon, ce que Foucault exprimera en disant, aussi bien dans La naissance de la clinique que dans Raymond Roussel, deux livres de la même époque, l'un étant d'ailleurs la version sérieuse de l'autre et l'autre la version humoristique de l'un, ce que Foucault dit, résumera en disant, parler et donner à voir en même temps. Vous voyez, c'est très important, parler et donner à voir en même temps. Ça veut dire, et comprenez, parler et donner à voir, ou parler et voir, sont deux formes absolument hétérogènes. Et pourtant, il y a en même temps. Le en même temps, c'est la capture mutuelle. En d'autres termes, toute notre voie de petite solution qui s'esquisse, c'est, ça peut s'arranger la capture mutuelle, précisément parce que la capture mutuelle n'est pas la capture d'une forme par une autre. C'est que tout se passe comme si non seulement il y avait une béance entre les deux formes, mais comme si chaque forme était traversée par une béance. Béance entre la lumière et les reflets scintillements, etc. Béance entre le « il y a » du langage et les énoncés disséminés dans le langage. C'est donc dans ce second type de béance que se fait l'insinuation. Du visible s'insinue dans l'énoncé. C'est la double insinuation. Insinuation du visible dans l'énonçable, insinuation de l'énonçable dans le visible. À la faveur de ceci, que les deux formes sont deux formes hétérogènes, oui, mais deux formes d'extériorité. C'est donc dans l'extériorité qui définit chacune que l'autre peut s'insinuer et se glisser. Et en même temps, encore une fois, je dis, ça ne va qu'à moitié. On n'est pas content de cette solution. Parce qu'elle ne nous sort pas vraiment de ça, mais cette violence. Bien sûr, ça consiste à répéter, il y a une violence. Alors, dire qu'elle n'est pas, que la double capture n'est pas la capture d'une des formes par l'autre, mais qu'elle est une insinuation de quelque chose à la faveur de la fonction d'extériorité propre à chacune des deux formes. Mais après tout, pourquoi l'extériorité d'une forme serait-elle pénétrable par l'autre ? Vous comprenez, on a le sentiment, oui, on a fait un pas, mais c'est pas encore, on n'est pas content. Je suppose qu'on n'est pas content, non. Et voilà que, deuxième point, Roussel propose à Foucault une autre solution. Car il y a une troisième sorte d'œuvre de Roussel. On a vu deux sortes d'œuvres, les œuvres de procédés langagiers et les œuvres de visibilité ou de vignette. Puis il y a une troisième sorte d'œuvre, alors la plus folle que les deux autres réunies, et que Roussel, dont Roussel ne parle pas, dans « Comment j'ai écrit certains de mes livres » et qui fait peut-être sa plus belle œuvre, il me semble, enfin non, pas sa plus belle, qui fait une œuvre très curieuse, intitulée cette fois-ci « Nouvelles impressions d'Afrique ». Alors je vous dis, là, le procédé est complètement différent. Le procédé langagier est complètement différent. Je vous le dis avant de chercher comment il peut nous servir. Voilà. Supposez que vous dites une phrase. Vous dites une phrase, par exemple, composée de trois vers. J'ai mes trois vers. Là, là, là. Et puis, entre le second et le troisième, j'ouvre une parenthèse. entre le second et le troisième. Je vous donne le schéma formel du procédé avant de vous donner un exemple, parce que bizarrement, l'exemple est encore plus obscur que là, puisqu'on n'arrive plus à suivre la phrase, vous pouvez deviner. Donc, je vais nettoyer parce que ça ne va pas être assez bien. Ah, oh, tu m'as les donné mieux.
Ah, oui, mais bon, voilà.
Vers quel point ça arrive, hein. Supposez que entre 2 et 3, ça c'est la première version. Deuxième version, entre 2 et 3, vous introduisez une parenthèse. Une parenthèse de 2 vers. Aussi, je mets en pointillé. Un 5. Vous avez tout compris, déjà. Pourquoi ne pas aller à l'infini? Entre 3 et 4, vous allez introduire une seconde parenthèse marquée par double parenthèse. Autant que vous pouvez introduire une parenthèse de, vous faites la couleur, là, une parenthèse de 3 lettres. Vous avez du coup 1, 2, 3, 4, 5, 4 devient 6, 3 devient 7. Dans votre double parenthèse de 2 vers, vous pouvez introduire entre les 2 vers une parenthèse tierce. Symbolisé comme ça, etc., etc., etc. Vous allez dire, c'est embêtant parce qu'on va perdre le fil. Oui, on va perdre le fil. Mais au profit de quel dépaysement? Au profit de quel trouble poétique? Foucault analyse un exemple. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas... Ça, c'est typiquement le cas d'une œuvre infinie. Je veux dire, quand on parle de l'œuvre infinie, c'est toujours pas bon lorsque c'est une image ou une métaphore. Si on parle d'œuvre infinie, eh bien, il faut le faire. Si on ne le fait pas, c'est rien. À ce moment-là, il ne faut pas parler d'œuvre infinie. Je peux dire, Roussel, lui... Il a inventé concrètement une œuvre infinie. Alors, il n'a pas besoin de la faire, puisque il nous invite à la faire. Lui, il va jusqu'à... Mais en plus, c'est très, très compliqué, là. Je ne donne que le point de départ, hein, de... des impressions d'Afrique. Il donne un exemple, Foucault. Voilà. Version première. Seulement, on n'a pas la version première. C'est Foucault qui rétablit les versions en ôtant les parenthèses. Hein. Nous, on se trouve devant le texte. Il s'arrête généralement. Enfin, le plus, il semble que le plus, je n'ai pas vérifié, mais d'après Foucault, le maximum, c'est 5 parenthèses. C'est beaucoup déjà. Voilà les versions successives. Voilà un groupe premier de 4 vers. Première version. Rasant le Nil, je vois fuir 2 rives couvertes de fleurs, d'ailes, d'éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à 20 de nos salons, d'opaques frondaisons, de fruits et de rayons. C'est curieux d'ailleurs ça. De riches plantes vertes dont une suffirait à 20 de nos salons. Une seule plante verte qui suffit à 20 salons. Un mystère. Bon, voilà la première version. Rasant le Nil, je vois fuir deux rives couvertes de fleurs, d'ailes, d'éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à 20 de nos salons, d'opaques frondaisons, de fruits et de rayons. On tient encore, hein, ça va. On arrive à suivre, déjà avec un peu de peine, mais on arrive à suivre. On s'arrête à la fin du vers 3, dont une suffirait à 20 de nos salons. Et on fait une parenthèse de 2 vers. Alors ça donne. De fleurs, d'ailes, d'éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à 20 de nos salons. Parenthèse. Doux salon, doux douceur, doux salon, où sitôt qu'on tournait les talons, sur celui qui s'éloigne, on fait courir maintes bruits. Fermez la parenthèse et vous recommencez, vous enchaînez d'opaques frondaisons, de rayons et de fruits. Déjà là, on sait plus très bien on en est. Hein. Si bien que la seconde version, c'est rasant le Nil, je vois fuir deux rives couvertes de fleurs, d'ailes, d'éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à 20 de nos salons. Doux salons, aussitôt qu'on tournait les talons, sur celui qui s'éloigne, on fait courir mal de bruit, d'opaques frondaisons, de rayons et de fruits. Bon. Supposez là-dessus que, puisque j'ai introduit deux vers dans la première parenthèse, je mette une double parenthèse entre le premier et le second vers de la première parenthèse. Ça donnerait « Doux salon, aussitôt contourné deux talons, en se divertissant soit de sa couardise, soit de ses fins talents, quoi qu'il fasse ou qu'il dise, sur celui qui s'éloigne, on fait courir main de bruit. » Là, retombez. « D'opaques frondaisons, de rayons et de fruits. » Vous continuez. Vous avez introduit le premier vers de la double parenthèse, c'est « en se divertissant soit de sa couardise, soit de ses fins talents, quoi qu'il fasse, soit de ses fins talents, quoi qu'il fasse ou qu'il dise. » Vous introduisez une triple parenthèse après « en se divertissant soit de sa couardise. » Ce qui vous donne « doux salon, ou sitôt contourné deux talons, en se divertissant soit de sa couardise, force particulier, quoi qu'on leur fasse ou dise, jugeant le talion d'un emploi peu prudent, rendent salut pour œil et sourire pour dent. » Vous enchaînez. Alors je peux vous redonner la lecture finale, mais pour voir si vous suivez. Rasant le Nil, je vois fuir deux rives couvertes de fleurs, d'ailes, d'éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à 20 de nos salons. Doux salon, aussitôt qu'on tournait les talons, sur celui qui s'éloigne, on fait courir. Merde. Je recommence. À 20 de nos salons. Doux salon, aussitôt qu'on tournait les talons, en se divertissant soit de sa couardise, soit de ses fins talons. Oh là là, j'y arrive pas. Il faudrait, j'ai pas amené le texte là où il y a toutes les parenthèses. Enfin, vous avez compris. Hein, je ne peux pas reconstituer ça. Bon. Alors, en quoi ça nous intéresse, ça? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de sérieux? Mais encore une fois, le sérieux, c'est pas mieux que... Il n'y a rien de mieux que ça. C'est pas la peine de le refaire, hein. Ça fait partie des choses, comme on dit, une fois que quelqu'un l'a fait, hein, faut le faire une fois, mais c'est tout. Faut trouver vos... Je vous signale que lorsque... C'est pas le... que Foucault a considéré dans une préface très intéressante, a fait un parallèle entre trois grands manipulateurs de langage, inventeurs de langage artificiel, de langage hétérodoxe, comme ça, qui sont Groussel, dont il avait repris l'analyse dans une courte préface à autre chose, Brisset, et un Américain beaucoup plus récent, Wolfson, qui lui aussi, comme on dit, tient quelque chose, et invente un langage à partir de tout autre principe que Roussel. Et justement, l'intérêt du texte de Foucault, c'est de comparer les trois et d'essayer de montrer la diversité de leurs procédés à chacun. Le procédé de Roussel, le procédé de Brisset, qui est un écrivain du début du XXe aussi, et le procédé de Wolfson, qui vit encore actuellement, qui est un jeune Américain, qui a fait une espèce d'invention, d'invention de langage et de traitement du langage tout à fait bizarre. Or, donc, ce ne serait pas le seul cas, mais c'est au niveau de Roussel que Foucault a attaché les plus fortes analyses. Et je veux juste signaler que ce serait intéressant, et que chaque fois il s'agit d'une bataille. Il s'agit d'une bataille intérieure au langage. Il y a la bataille Roussel, il y a la bataille Brisset, et il y a la bataille Wolfson, plus toutes sortes d'autres. Il faudrait vous reporter, ceux que ça intéresse ce point, il faudrait vous reporter au c'est tout le problème du langage et de la schizophrénie, où là la bibliographie est interminable, mais très très importante, très intéressante, et où vous trouveriez notamment de grands renseignements sur les langages schizophrènes dans les cahiers de l'art brut. Ou bien il faudrait revenir au... Non, oui, peu importe. Alors, ce nouveau procédé, hein, cette seconde solution, cette prolifération des parenthèses, pourquoi ? Et au nom de quoi je prétends dire, ben oui, c'est une seconde solution. Si vous avez suivi aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pas qu'on rit beaucoup, mais c'est pas qu'on rit, hein, et c'est différent ce que je dis, c'est rigolo. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est rigolo. Ça ne fait pas rire, mais c'est rigolo. Tout comme, c'est pas qu'on le voit, mais c'est du visible. Hein, c'est comme ça. Avant, c'était du sérieux. Et ben, ce qui m'intéresse, c'est comment finalement les deux s'échangent. L'analyse dite comique et l'analyse sérieuse, mais c'est pareil, vous savez. Parce que réfléchissez au procédé de la prolifération des parenthèses. Ça revient à dire quoi ? Ça veut dire l'énoncé a un pouvoir déterminant. Bien plus, l'énoncé procède à une détermination infinie. L'énoncé, c'est la détermination infinie. Qu'est-ce que ça veut dire, la détermination infinie ? Mais c'est tout simple. La détermination infinie, ça veut dire, là on le voit concrètement, une phrase étant donnée, vous pouvez toujours faire proliférer les parenthèses qui séparent deux membres de la phrase, deux segments de la phrase. C'est un principe. C'est dans la phrase un principe de détermination infinie. Et c'est même un entraînement, comme ça vous ferez craquer vos proches, de parler comme ça. Alors, bon, c'est un principe de détermination infinie qui est propre à l'énoncé. Mais ça nous convient tout à fait. Pourquoi ? Je vous rappelle nos analyses sérieuses précédentes. La forme de l'énoncé, c'est la détermination ou la spontanéité. La forme du visible, c'est la réceptivité. Le « il y a du langage » est spontané. Le « il y a de la lumière » est réceptif. Et on a vu, à la suite d'une longue analyse, que je ne reprends pas, en quoi l'on pouvait dire, de ce point de vue, que Foucault était kantien. Ce que j'essayais de traduire en disant, vous savez, La forme du visible, c'est la forme du déterminable, tandis que la forme de l'énoncé, c'est la forme de la détermination. Et les deux formes restaient strictement irréductibles, puisque c'était l'apport le plus profond de Kant, on avait vu. L'apport le plus profond de Kant nous semblait avoir été de montrer que la forme du déterminable était irréductible à la forme de la détermination. Et d'avoir ainsi reproché à tous ses prédécesseurs de ne pas l'avoir vu, d'avoir cru dès lors que la détermination portait sur de l'indéterminé. Et Kant nous disait pas du tout. La détermination porte nécessairement sur un déterminable et non pas sur un indéterminé. Or, le déterminable a une forme qui n'est pas la même que celle de la détermination. Il y a donc deux formes irréductibles, la forme du déterminable et la forme de la détermination. La question, c'était dès lors, s'il y a un rapport entre le visible et l'énonçable, il faut bien que la détermination s'exerce sur le déterminable. Mais comment peut-elle le faire puisque les deux formes sont irréductibles? Comment la détermination peut-elle s'exercer sur le déterminable puisque la forme de la détermination est irréductible à la forme du déterminable et inversement? Voyez pourquoi le procédé de Roussel m'intéresse? La réponse serait oui, mais la forme de la détermination va jusqu'à l'infini. La forme de la détermination va jusqu'à l'infini. C'est un peu ce que dit l'archéologie du savoir. Il y a des formations discursives, les énoncés, et puis il y a du non-discursif. Seulement, il y a des rapports discursifs, le non-discursif n'est pas discursif. Il y a hétérogénéité des deux formes. Seulement, le discursif a des rapports discursifs avec le non-discursif. Bon, c'est parce que la détermination va jusqu'à l'infini que dès lors elle peut rejoindre le déterminable. Voilà pourquoi ce serait au niveau d'impression, des nouvelles impressions d'Afrique que Roussel nous donnerait la clé d'un rapport des deux formes au sein du non-rapport. Comprenez? Et qu'est-ce qui fait qu'en nous résonne le même scrupule? Non, ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore, pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que qu'est-ce qui empêchera à jamais que, lorsque et en tant que la détermination va à l'infini, le déterminable se dérobe à l'infini. Et c'est bien ce qui arrive dans la dernière technique de Roussel. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. La visibilité se dérobe au fur et à mesure que la détermination gagne. La visibilité recule à mesure que la détermination va à l'infini. Foucault le pressant le reconnaît à sa manière lorsqu'il parle d'une folle poursuite à propos des impressions, des nouvelles impressions d'Afrique. La folle poursuite où s'engage. Roussel, lorsqu'il veut porter le langage au niveau de la détermination infinie. Mais à ce moment-là, ce sont les visibilités qui s'enfuient à tire-d'aile. À mesure que la détermination gagne, la visibilité se recule. Car notre problème, c'est toujours le même. D'accord, il y a bataille. Encore faut-il que les deux se joignent, se rencontrent. Or, on en est toujours à dire, oui, tout s'expliquera si les deux se rencontrent. Mais les deux ne se rencontrent pas. Le visible ne rencontrera pas l'énonçable. L'énonçable ne rencontrera pas le visible. Et nous serons toujours condamnés à dire, devant la prison, ceci n'est pas une prison. Et devant la pipe, ceci n'est pas une pipe. À moins que... Bon, on a fait tout ce qu'on pouvait. C'est qu'on était bêtes. On était bêtes. Peut-être qu'on demandait une solution là où il n'y en avait pas. Oh, on demandait une solution là où il n'y en avait pas, ben oui, faut s'y faire. Puisqu'on a fait tout ce qu'on jugeait impossible. Là, moi, je vois plus. On voit plus. Hein? Eh ben, c'est notre faute. Qu'est-ce qui nous disait que la solution était donnée au même niveau que le problème? Ça arrive très souvent que quand un problème est posé, il reçoive sa solution d'une autre dimension que les siennes. Aucune raison de penser qu'un problème doit être résolu avec des éléments compris dans les conditions mêmes du problème. La solution même, on peut dire, elle vient souvent d'ailleurs. Nous faisions une erreur en voulant que la solution jaillisse au niveau même où le problème était posé. Pour la chercher, il fallait l'attraper ailleurs. Qu'est-ce qui me le dit, ça? Ben ça, c'est la troisième et dernière voie vers une solution. Capture mutuelle était la première voie. Détermination infinie était la seconde voie. La troisième voie, c'est rien du tout. Cherchons une autre dimension pour résoudre le problème. Or, ça, c'est la voie de Kant. On l'a vu. Quand il s'agit d'expliquer comment il peut y avoir un rapport au sein du non-rapport, réceptivité-spontanéité. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a le schème de l'imagination, dimension absolument mystérieuse et cachée, et qui n'est pas une forme. Ce n'est pas une forme. Le schème n'est pas une forme. Et bizarrement, ce schème qui n'est pas une forme est d'une part adéquat à l'espace et au temps, c'est-à-dire à la forme du déterminable, et d'autre part adéquat au concept, c'est-à-dire à la forme de la détermination. Les deux formes du déterminable et la détermination sont irréductibles, hétérogènes. Mais il y a quelque chose qui est homogène à l'une des formes et à l'autre des formes. Simplement, cette autre chose, ce n'est pas une forme. Comment quelque chose qui n'est pas une forme peut être homogène à deux formes qui, elles, ne sont pas homogènes entre elles? C'est un mystère. Bon, le génie de Kant est qu'il essaie de nous le faire comprendre. Il essaie de nous le faire comprendre. Mon problème, ce n'est pas exposé Kant. Je dis... Est-ce que chez Foucault, on va trouver un mouvement analogue? Nécessité d'invoquer une autre dimension pour faire surgir du non-rapport à un rapport. Eh bien, oui. Ça reviendrait à dire aussi, dans quelle dimension les combattants, les lutteurs, se peuvent-ils se rencontrer? Puisqu'on a vu, au niveau des captures mutuelles, qu'il y avait étreinte. Ben dans quelle dimension se fait la rencontre entre les lutteurs? C'est pas au niveau des formes. Les formes sont sans rapport. Alors il faut une autre dimension. Il faut que cette autre dimension soit informelle. Et c'est ce que Foucault va dire, il me semble, explicitement dans deux textes importants. Un texte de « Ceci n'est pas une » à propos de Paul Klee. Pourquoi à propos de Paul Klee? Parce que Paul Klee est certainement le plus grand peintre qui est confronté les signes et les figures. Ou si vous préférez, l'écriture ou l'énoncé et la figure visible. Par exemple, c'est pas fini, hein, ceux qui l'ont pas fait, il faut que je vous supplie, allez voir l'exposition Clé et la musique. Ah, je dis qu'il faut, je baissais la voix parce que je vous donnais un conseil, là, ça ne faisait plus partie. Je disais que ceux qui n'y avaient pas été, il fallait que vous trouviez le temps d'aller voir l'exposition Clé et la musique à Beaubourg. Vous verrez, là, vous comprendrez tout sur le rapport. Je pense à des tableaux, justement. Il y a deux petits tableaux, c'est le cas le plus simple de ce que je veux dire. Il y a deux petits tableaux qui sont une merveille, deux petites, tout petits. C'est les éléments d'un paysage. Vous avez alors arbres, grillages, touffes d'herbe, fleurs, etc. qui sont complètement dissociés les uns des autres, disséminés. Et ils sont mis sur une portée musicale. Ça paraît facile ce que je dis, hein, et en effet, si j'essaie de le reproduire, moi, eh ben, ça ne suffira pas pour faire chanter le paysage, pour faire chanter le jardin. Par quelle merveille! C'est ça le génie. Il fait ça. Je vous assure, vous ne pouvez pas regarder les deux versions du jardin là, de Clé, mis en portée musicale, par une simple dissociation des éléments. C'est très simple comme procédé. Encore une fois, il a des procédés beaucoup plus complexes, Clé. Mais ça, c'est le cas le plus simple. Sans que vous soyez saisi, mais vous êtes fasciné. Vous êtes fasciné. Il n'est pas question de passer à... vous êtes saisi par une espèce de beauté absolue. Le jardin chante. Comment il a fait? Je crois que les signes et les figures, il les a fait complètement se pénétrer, mais quoi, dans une autre dimension que celle du tableau. La musique. La musique. C'est le peintre musicien. Il y a une autre dimension non donnée. Le jardin chante. Soit. C'est ce que Foucault dit. Les lettres et les figures chez Clé se rencontrent en un tout autre espace que celui du tableau. C'est-à-dire se rencontrent en un espace qui n'est plus ni celui des énoncés, ni celui des visibilités, ni celui des signes, ni celui des figures. Bon, c'est une courte indication. Dans un autre texte, l'analyse de Nietzsche qu'il a faite, Foucault dit ceci à propos des combattants, texte qui donc nous est précieux, puisque c'est bien le problème. Il nous dit, il commente ce que signifie la notion nietzschéenne d'émergence. Et il dit « L'émergence désigne un lieu d'affrontement. » Bien, jusque-là, ça va. C'est-à-dire un lieu d'affrontement, il y a des lutteurs. C'est l'étreinte des lutteurs. Encore faut-il se garder de l'imaginer comme un champ clos. Vous voyez, par parenthèse, dénonciation de la forme d'enfermement. Encore faut-il se garder de l'imaginer comme un champ clos où se déroulerait une lutte, ou comme un plan où les adversaires seraient à égalité. C'est-à-dire la rencontre ne se fait pas dans un champ clos. Et il ajoute, c'est plutôt un non-lieu. C'est plutôt un non-lieu, une pure distance. Une pure distance. Qu'est-ce que c'est que ça, une pure distance? C'est une notion, pour ceux qui savent un peu dans ce domaine, c'est une notion typiquement de topologie et qui est indépendante des formes, tout à fait indépendante des formes. Donc, c'est un non-lieu, c'est pas un lieu, c'est un non-lieu. C'est une pure distance, à savoir le fait que les adversaires n'appartiennent pas au même espace. Nul n'est responsable d'une émergence, Nul ne peut s'en faire gloire, elle se produit toujours dans l'interstice. Bon. Eh bien, d'accord. La rencontre de la forme du visible et de la forme de l'énonçable se produit dans l'interstice entre les deux formes. Dès lors, elle n'implique aucun mélange des deux formes. C'est dans un recueil collectif hommage à Jean Hippolyte, c'est l'article de Foucault sur Nietzsche, page 156, auprès universitaire, hein, hommage à Jean Hippolyte. C'est introuvable ?
Si, on le trouve encore. Bah,
vous n'avez pas besoin de le trouver puisque je vous le raconte. Oui, alors ça revient à dire quoi ? D'accord. Il y a un non-rapport entre les deux formes. De ce non-rapport, un rapport va surgir, mais le rapport qui surgit est dans une autre dimension que celle des deux formes. Il est dans une dimension informelle. Nécessité d'une instance informelle, exactement comme Kant devait invoquer un schème de l'imagination pour rendre compte de la co-adaptation des deux formes, il faudra là aussi une dimension informelle, différente de celle des deux formes, pour rendre compte de la co-adaptation des deux formes. Qu'est-ce que ce sera ? Qu'est-ce que ce sera ? Et bien voilà, repos, récréation, quelle heure il en est ?
11h05.
Vous reposez, hein, vous vous donnez vraiment qu'on ne soit pas forcé de vous courir après 10 minutes. Hein. Tirez des conclusions. Car, ça ne vous échappe pas, nous n'avons plus qu'une séance avant les vacances. Et ce serait rudement bien que nous terminions le premier axe de la pensée de Foucault, c'est-à-dire le savoir, avec le trimestre. Mais j'ai peur, hélas, à moins que je ne ralentisse beaucoup, de devoir entamer le deuxième axe. Enfin, ça fait rien. Alors, tirons des conclusions sur le savoir et l'exigence d'une autre dimension, d'un autre axe. Première remarque, je peux considérer à la fin de ce trimestre que le premier axe de la pensée de Foucault s'est présenté sous le nom de savoir. Et pourquoi est-ce que c'est le premier axe de la pensée de Foucault ? Parce qu'il est bien entendu que sous le savoir ou avant le savoir, il n'y a rien. L'expérience est un savoir. Le savoir ne renvoie pas à un objet ou à un sujet préalable. Sujet et objet sont des variables du savoir. Des variables intérieures du savoir. À vous de décider si c'est de l'idéalisme ou pas. Peut-être que la question n'a pas de sens. Peu importe. En tout cas, c'est au nom de ceci que tout est savoir, et déjà savoir, que Foucault peut rompre avec, là aussi, une notion chère à la phénoménologie vulgaire, à savoir, il n'y a pas d'expérience sauvage. Là-dessus, je précise que parmi vous, en effet, comme il n'y a pas d'intervention, comme vous n'intervenez pas oralement, et finalement c'est très bien, en revanche, beaucoup d'entre vous me passent après des fiches. Et jusqu'à maintenant, ce sont des fiches d'un très grand intérêt, c'est-à-dire, manifestement, elles viennent de gens qui connaissent les textes de Foucault aussi bien que moi, ou même mieux. Et dans ces fiches, je cite cela parce que j'en ai eu plusieurs, je préviens que ceux qui font ces fiches, ils ne croient pas surtout que je m'en désintéresse, au contraire, mais que j'estime ne pas en être à un point où je peux en tenir compte dans mon analyse. Mais je les garde bien pour... quand le moment est venu pour moi, à ce moment-là, je reprendrai ça avec celui dont vient l'affiche. Or, l'un d'entre vous, notamment, m'a passé une fiche en me disant « c'est très joli, dire qu'il n'y a pas d'expérience sauvage chez Foucault ». Ça n'empêche pas que, en tout cas, il emploie le mot « vérité sauvage ». Et celui qui a fait cette fiche me cite les textes. Bon, le moment venu, nous aurons à nous demander qu'est-ce que peut bien vouloir dire, en effet, l'affirmation de Foucault qu'il y a des vérités sauvages. Ce qui implique quand même une manière d'expérience sauvage, puisque la vérité est affaire d'expérience. Donc, c'est approximatif, je dis, si l'on en reste à ce premier axe, il n'y a aucune place pour une expérience sauvage qui serait comme le sol nourricier du savoir. Le savoir n'a pas d'autre sol nourricier que lui-même. Donc la première raison pour laquelle il n'y a pas d'expérience sauvage à ce niveau, c'est que tout est savoir et il n'y a rien avant le savoir ni sous le savoir. Voilà donc notre premier groupe de conclusions. Le deuxième groupe, deuxième type de conclusion, c'est que le savoir a deux parties.